positive attitude et cette parenthèse enchantée. Ce sera sur les Champs-Élysées. 80 000 personnes sont attendues. Ça vaut bien 5 millions d'euros. On va en parler avec les grandes gueules et avec vous.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules. Tout RMC en podcast.
Sur l'appli RMC.
Bonjour, c'est Anaïs Castagna.
RMC, Anaïs Matin.
Désormais le week-end, on se retrouve dès 6h sur RMC pour votre nouveau rendez-vous Anaïs Matin. Les toutes dernières infos, des invités qui font l'actu et bien sûr plein de nouveaux rendez-vous que vous allez adorer, j'en suis persuadée. Avec toute ma bande, Peggy Broche et vous, au 32-16, on vous promet de la bonne humeur pour accompagner votre café. C'est le week-end, on prend le temps, on décompresse. J'ai hâte de vous retrouver.
RMC, 6h-9h, Anaïs Matin.
Oui, Anaïs Matin, c'est désormais de 6h à 9h, tous les samedis et dimanches sur RMC. Alors à tout à l'heure.
Le 29 septembre à Saint-Cloud ou connecté depuis le lieu de votre choix, rendez-vous à la course Enfants sans cancer avec RMC. Un événement festif et solidaire à ne pas manquer pour soutenir la recherche. Inscrivez-vous vite sur enfantssanscancer.com. La course Enfants sans cancer, le 29 septembre à Saint-Cloud ou en connecté avec RMC. Jusqu'à dimanche, sur le circuit Paul Ricard, c'est le Bol d'Or avec RMC. Le mythe de l'endurance moto est de retour pour une 87e édition. Village moto, show mécanique, exposition moto et un concert du groupe All Enjoys. Info Iresa sur boldor.com. Le Bol d'Or moto, jusqu'à dimanche, sur le circuit Paul Ricard avec RMC.
La semaine prochaine, jouez sur RMC, remportez vos AirPods
et peut-être
l'iPhone 16.
Pour le gagner, va falloir le déverrouiller.
RMC a 5 chiffres du code de verrouillage. À vous de trouver le 6e.
Alors, écoutez bien RMC et tentez votre chance.
Dès que vous entendez, envoyez code par SMS au 732-16.
Code au 732-16.
RMC, première radio à vous offrir le nouvel iPhone 16.
Sur RMC, la nuit,
RMC,
c'est le meilleur de la journée. Rediff.
RMC,
9h midi,
les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules sur RMC, RMC Story, discussion, débat avec vous, bien sûr, avec Antoine Diers, Flora Guebali et Charles Consigny. C'est vous qui prenez la parole, comme tous les jours, pour discuter avec nous au 32-16. Il nous reste une vingtaine de minutes à passer ensemble encore. On va parler de l'esprit des Jeux Olympiques.
RMC, Les Grandes Gueules.
Cette musique.
Et oui, parce que cet esprit des JO, cette parenthèse enchantée qui aura duré un mois, il faut pouvoir faire en sorte qu'elle perdure. Et c'était la volonté du président de la République d'associer une nouvelle fois les Français et les champions, tout du moins pour ceux qui auront la chance d'être dans la capitale.
Elle dit quelle musique, Flora ? Et tu sais qu'à partir d'aujourd'hui, cette musique qui s'appelle Parade est disponible sur les plateformes de streaming, donc tu peux la télécharger, l'acheter, voilà, parce que ça a été un peu le tube de l'été, on l'a vraiment en tête. Alors effectivement, c'est Emmanuel Macron qui s'est dit, il faut continuer la fête, donc aujourd'hui, enfin demain pardon, il y aura près de 300 sportifs rassemblés sur l'avenue des Champs-Élysées. On devrait revoir Antoine Dupont, Teddy Riner, Léon Marchand notamment, mais aussi l'escrimeuse Manon Apiti-Brunet ou la triathlète Cassandre Beaugrand. Ils vont être là. Il y avait 70 000 places gratuites à réserver. Elles se sont arrachées en une heure. Donc visiblement, le public a envie de prolonger la fête. Alors ça a un coût. Le Canard Enchaîné a parlé de 5 millions d'euros. Et le Canard explique que Macron a tordu le bras de France Télé, enfin des patrons de France Télé, pour que France Télé prenne en charge tout ça. Donc France Télé va diffuser la parade. Il va faire beau samedi. Bon, pour une fois, ça sera pas sous la pluie. Est-ce que c'était utile de prolonger, de fêter les héros des JO une fois de plus, ou est-ce que là, il y a une arrière-pensée politique peut-être de la part d'Emmanuel Macron et d'Anne Hidalgo de dire tiens, finalement, on va essayer de surfer le plus longtemps possible sur cet événement.
Et ce sera retransmis.
Oui, on a demandé à France Télé de le faire. Ils n'avaient pas prévu, donc ils ont tout
bousculé les programmes, effectivement. Alors, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Est-ce que c'est utile ? Finalement, peut-être que les Français seront contents de revoir, tu sais, tous ces champions qu'ils ont applaudis.
On l'a déjà fait.
Qu'est-ce que t'en penses, Flora ? Tu seras devant ta télé ? Tu iras peut-être faire un saut ?
Alors, on ne sait pas quels sont les artistes, parce qu'il y aura des artistes. Il y a un podium.
Piche. Est-ce que Piche sera de retour ?
Piche sera de retour. Est-ce que Philippe Catherine sera là ? Je ne suis pas sûr. Et Céline Dion non plus.
Schtroumpf.
Non, mais je vois pas pourquoi ce serait une instrumentalisation politique que de faire durer le plaisir. Vous savez, par hasard, je marchais à Paris un vendredi soir et je marchais dans la rue et d'un coup, il y avait plein de monde devant moi. J'arrivais plus à. Enfin, il y avait beaucoup de monde. Et en fait, c'était plein de Franciliens, de Parisiens et je pense des Français qui étaient venus de tout le pays, parce que c'était le week-end, pour voir la Vasque qui était au sol à ce moment-là et qui était pas loin de nous. Et j'ai vu, et il y avait plein de familles qui avaient amené des trépieds pour faire des jolies photos avec leur appareil photo. À mon avis, il y avait des passionnés de photos aussi qui avaient envie de prendre ça en photo. Ouais. Et je lève la tête et je vois la Vasque avec la lune qui était presque pleine ce soir-là derrière. Et c'était vraiment beau et chouette. Et il y avait des enfants dans la joie et des familles dans la joie. Et
je vais écrire un livre comme Charles.
Ce qui se passe sur les plateaux télé, c'est pas non plus. Évidemment, c'est important de parler de politique, mais c'est pas non plus ce qui anime les Français tous les jours. Ce qui les anime tous les jours, c'est de passer des bons moments en famille, de voir des belles choses, de prendre des jolies photos,
de
passer du bon temps. Et c'est ça aussi l'épanouissement des familles françaises. Et donc, c'est vraiment chouette. Plus on peut prolonger la fête, mieux on se porte.
Alors attention, parce que Charles va répondre avec sa formule qui est désormais célèbre sur les réseaux sociaux. Nia, 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 du pain et des jeux.
Vous allez me trouver mesquin. Peut-être bas de plafond, je l'assume tout à fait.
Je ne vous dis pas.
TF1 va diffuser la parade, me dit-on.
Je ne vous dis pas qu'elle est. Oui, et puis pourquoi pas.
Mondovision.
Pourquoi pas CNN aussi. Je ne vous dis pas quel a été mon plaisir cette semaine de pouvoir traverser en scooter la place de la Concorde pour me rendre de mon domicile à mon lieu de travail. C'est-à-dire cette espèce de réappropriation de la ville où j'habite au prix d'un don de 80% de mes revenus à la puissance publique, puisque être un Français parisien, c'est ça, c'est vivre dans le communisme. Mais au moins, j'étais de nouveau chez moi. Et on ne me gonflait pas avec une cérémonie à la con, un jeu de ping-pong olympique ou autre performance de natation. Ouh là là, il a atteint le bord en 2 secondes 4 au lieu de 2 secondes 5 par rapport à l'année dernière. Mais c'est extraordinaire, mais vite, une statue, une légion d'honneur, une avenue pour ce nageur. Mais peut-on vivre en dehors de ces fêtes collectives bidons? Moi, c'est ça que je demande, c'est d'avoir la paix. Au moins à Paris, j'aurais voulu qu'on organise ces Jeux Olympiques à Brive-la-Gaillarde ou à Bordeaux ou que sais-je ailleurs, mais Paris n'est plus vivable. Et donc vraiment, se réinvestir Paris presque tranquillement ces derniers jours, je ne vous cache pas qu'après des mois et des mois d'entraves permanentes partout, ça m'a fait du bien.
Antoine.
Ouais, bon, Charles, vraiment, on n'arrive jamais à déceler ce qui est vrai, ce qui est de l'humour, etc. Premier degré, waouh. Eh ben, moi, je suis pas.
Mais tu peux pas savoir, t'es à Dunkerque. Alors, voilà. Forcément, tout est accessible à pied, et puis il y a rien. Donc voilà. Non, je salue les Dunkerquois. Non,
je retire. Trouvé la ville aussi agréable que cet été.
Tu fais le Parisien de base là. Non, mais si cette
parade. À part un flamencuche, non. Qu'est-ce que
c'est pas du tout le coin. Je t'expliquerai l'Alsace. Je t'expliquerai le pays. Je t'inviterai à sortir de Paris un jour.
Mais il y a quoi à Dunkerque exactement?
La plage magnifique.
La bière.
Un patrimoine exceptionnel.
Mais la plage en doudoune.
La statue de Jean Bart. Mais non, tu peux y aller sans doudoune. Même toi qui as
des harengs.
C'est pas bon,
lancer de harengs. Non, je vous vendrai Dunkerque. Parlons de la parade. Si enfin on met les athlètes vraiment à l'honneur et qu'il n'y a pas tout un gloubi-boulga wokiste autour, bah, je pense que c'est sympa parce que toutes les autres cérémonies qu'on nous a proposées, c'était avant tout des véhicules de messages politiques. Et donc si on peut féliciter nos athlètes, moi ça me plaît assez et on demandera de s'excuser de ne pas pouvoir circuler en scooter.
Il ne faut pas que ça refasse une Benalla, hein. C'est-à-dire, on se souvient après la Coupe du Monde, tu sais que le bus avait tracé parce qu'il fallait que les champions arrivent à l'Élysée. Donc j'espère que cette fois-ci, les Français pourront vraiment jouir de leur champion.
Pour être honnête, c'est pas la première fois qu'on fait défiler sur les Champs-Élysées une équipe qui vient de gagner une Coupe du Monde. Ça a été 98. Effectivement, là, ça avait été raté parce qu'il fallait à tout prix que Emmanuel Macron les voie avant 20h. Et donc, ça avait été une catastrophe. 2018, c'était le début d'ailleurs des emmerdes, entre guillemets, pour Emmanuel Macron.
c'est à partir de là que l'état de grâce est terminé. Non, mais c'est
marrant. Par ailleurs, c'est très intéressant cet esprit des jeux. Parce que effectivement, à ma modeste échelle, quand j'ai critiqué cette obligation de se réjouir cet été, je me suis pris les foudres de tous ceux qui sont dans cette espèce de fascisme intellectuel, d'obligation. Et c'est intéressant comme en fait on demande aux Français, si vous voulez, on impose aux Français le pire système fiscal du monde, le déclin de leur pays.
On impose aux Parisiens
la destruction de leur ville, de leur qualité de vie, de toute possibilité d'en faire l'expérience qu'ils en faisaient depuis 400 ans. Mais attention, on est obligé de se réjouir parce qu'il y a les Jeux Olympiques et qu'on arrive à peu près à organiser ça sans qu'il y ait un attentat ou une épidémie quelconque. Et on voudrait les contraindre à ce que ça dure plus longtemps en faisant comme si c'était les Français qui étaient ronchons et non pas les gouvernants qui avaient gravement failli. Eh ben non, moi je suis du côté des Français ronchons.
Dans un instant, on verra si Thierry est ronchon, il nous appelle des Yvelines, va-t-il se déplacer, va-t-il venir vers Paris pour la parade olympique. Il faut prolonger l'état d'esprit des JO. On en discute au 32-16.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules.
Pour ne plus rien rater d'RMC,
téléchargez l'appli RMC.
Salut, c'est Stephen Brun sur RMC. Je vous donne rendez-vous demain dans le Stephen Brunch, votre nouvelle émission chaque dimanche de 13h à 15h. Comme dans tous les bons repas de famille, pendant 2h, on va débattre, s'engueuler et surtout rigoler autour de l'actualité sportive. C'est votre libre antenne du dimanche midi. Alors je vous attends nombreux au 32-16 pour venir débattre. À demain, 13h, pour Stephen Brunch sur RMC.
Cette semaine, c'est l'Open Blue Rennes, le tournoi majeur de tennis en Bretagne avec RMC. Au Liberté à Rennes, fêtez les 18 ans de l'événement de la rentrée. Richard Gasquet, Lucas Pouille, Benjamin Bonzi, Benoît Paire, Pierre Hugerbert, qui remportera l'Open Blue Rennes.
Rendez-vous cette semaine. Place des 4 euros sur opendorennes.org avec RMC.
Dimanche 15 septembre, vivez l'adrénaline des courses hippiques lors des Qatar Arc Trials à l'hippodrome de Paris-Longchamp avec RMC. L'élite des purs sangs et des jockeys s'affronte sur une dernière course préparatoire avant le grand week-end du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Info et RESA, francegallo-live.com. Les Qatar Arc Trials, dimanche 15 septembre avec RMC.
Tous les week-ends, de midi à 13h, c'est les Paris RMC.
Conseils, pronostics, meilleures cotes, préparez vos paris sportifs du week-end avec la Dream Team Sport RMC.
Les Paris RMC, le rendez-vous des parieurs, tous les samedis et dimanches, midi 13h, avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. On continue de discuter, de débattre. On termine l'émission avec cette parade. Parade olympique demain, les champions, les médaillés, qu'ils soient olympiques ou paralympiques, défileront sur les Champs-Élysées. Alors ce sera gratuit, ce sera très délimité, mais c'est entre 70 000 et 80 000 personnes qui se masseront sur le passage du cortège. Ce sera retransmis à la télévision. Mmh. Il s'agit de perpétuer ou de perpétrer l'esprit olympique, mon cher Thierry, qui nous appelle des Yvelines, bonjour.
Bonjour à vous tous, bonjour aux grandes gueules. Merci à Charles, parce que j'adore son humour, franchement, de prendre les choses sérieuses et puis de les tourner de la façon qu'il dit, déjà. Ça, j'aime bien l'entendre parler. Pourquoi pas, comme la Coupe du Monde, quand les champions du monde ont défilé. Moi, ce qui me dérange, c'est sur le fait que ça va nous coûter encore de l'argent, même si c'est France 2. France 2, c'est l'argent du contribuable malgré tout, qui vont payer. Je reviens à ce que disait Charles. Moi, ce qui me dérange aussi, c'est on dénature la Légion. Enfin, pour certains, on va leur donner la Légion d'honneur et on distribue la Légion d'honneur à tout va. Quoi, je veux dire, on dénature le pourquoi du comment de la Légion
d'honneur. Donc, on dénature la Tour Eiffel en laissant les anneaux olympiques. On dénature la Légion d'honneur aussi en la donnant aux sportifs. Ça fait beaucoup. Et en plus, avec votre pognon pour la parade.
Ouais, avec le pognon du contribuable pour la parade. Mais sinon, en soi, ça ne me dérange pas la parade. Parce qu'on l'a fait pour la Coupe du Monde, pour les deux Coupes du Monde qu'on a gagnées. On l'a fait, en soi, ça ne me dérange pas. Mais j'ai oublié aussi qu'on a monopolisé pour les JO les forces de sécurité et qu'on va à nouveau encore monopoliser la gendarmerie et la police pour la protection des Français qui seront là. Donc ça fait beaucoup.
C'est vrai que moi, je ne vois pas bien ce qui coûte 5 millions d'euros dans une parade.
C'est le chiffre qui était avancé cette semaine par le Canard Enchaîné.
Moi, si on me dit, ils sont sur des bus, ils descendent.
Il y a le spectacle organisé. Il y a des artistes aussi qui sont là.
Est-ce qu'il y a des artistes aussi?
Ah bah oui, il y aura un concert à l'Étoile, enfin place de l'Étoile. Je ne sais pas si Christine and the Queen sera de nouveau là. Donc, ça va être la fête.
C'est l'argent des contribuables. C'est quand même l'argent du contribuable. Sûr.
On
est en train de dire depuis des jours, on est en train de dire, puis le Premier ministre a été dans les hôpitaux et tout ça, et c'est 5 millions qu'on a pu donner dans les hôpitaux et tout ça, je veux dire, franchement.
Mais de toute façon, il y a des messages contradictoires tous les jours, et on comprend d'ailleurs pourquoi la France est endettée, c'est-à-dire que nos responsables nous disent, attention, nous vivons au-dessous de nos moyens, et quasiment toutes les semaines, il y a un exemple, effectivement, concret, pourquoi on est endetté, en fait. Voilà. Alors peut-être qu'il faut mieux dépenser l'argent de la parade qu'ailleurs, mais forcément c'est de l'argent qu'on a.
Thierry,
pas.
Du coup, vous serez devant votre écran pour la regarder quand même ou pas?
Pas du tout.
D'accord.
Franchement, pas du tout. Bah, c'est super bien. C'est vrai qu'on a gagné pas mal de médailles. C'est vrai que c'est félicitations.
Après, c'est sympa quand même de célébrer les champions. Antoine Dupont, Marchand.
Tout à fait. Mais en même temps, je veux dire, je sais pas, mais moi, ce qui me dérange, c'est l'ensemble. Je veux dire, ils sont des champions, effectivement. Ils ont touché quand même, pour ceux qui ont une médaille d'or.
80 000 euros.
Ouais, ils ont touché un petit chèque quand même. Et en plus, on va leur donner pour certains. On va leur donner aussi la Légion d'honneur. Donc, je veux dire, ça fait beaucoup. On les glorifie. Mais en même temps, je suis désolé. C'est méchant et mesquin ce que je veux dire, mais c'est des professionnels. Ils sont payés pour ça. Donc, il y a un moment.
Ils sont pas dans des sports. C'est pas des footballeurs, je veux dire.
Flora, comprends Thierry ronchonne un peu.
Mais moi, je suis pas d'accord parce que déjà, la logique économique, c'est trop facile de dire ça nous coûte de l'argent. Par exemple, si France Télévisions fait une très belle audience, ça va les aider aussi sur.
Avec la pub.
La pub, etc. C'est aussi un modèle économique.
Et enfin, France Télévisions n'est pas une entreprise rentable.
Et puis, par ailleurs.
Il y a 16 semaines de congés payés par an.
Et puis, par ailleurs, pour le tourisme, les sportifs eux-mêmes, tout ça, ça crée une économie et ça crée un système vertueux, de confiance vertueux. Si on décide de. C'est trop facile de dire ça coûte, parce qu'il faut regarder ce que ça coûte, ce que ça rapporte à court terme, à long terme. Sinon, évidemment, on fait rien à part l'hôpital. Enfin. Plein d'investissements qui ont du sens.
Ça va encore faire plaisir.
Que ça goûte sur la confiance des gens, la concorde.
Si c'est pour célébrer une France qui gagne, une France qui s'entraîne, qui bosse dur, etc., moi, ça me plaît assez. Si c'est pour payer des artistes de gauche qui vont encore nous faire un spectacle un peu moyen, là, ça me plaira moins. J'attends de voir. J'attends de voir.
Dans tous les cas, demain, ça va encore mettre un peu la pagaille dans Paris. Et moi, j'ai encore en tête ce que me disait, pas plus tard qu'en début de semaine, un chauffeur de taxi qui, cet été, a perdu 50%
ils ont pas bossé.
De son chiffre d'affaires. VTC aussi 50% et qui évoquait la parade et qui dit ça va encore nous faire du bien. Ça situe parce que eux, ils s'assoient sur leurs revenus. Hein, ce que tu as perdu, malheureusement, tu ne le rattrapes pas. Et ça, c'est une certitude pour eux. Donc, c'est encore une journée.
Comme les autorités parisiennes, leur rêve absolu, c'est de faire de la capitale une ville piétonne. J'entendais encore les déclarations de David Béliard qui nous explique que moins il y a de voitures, mieux on se porte. Donc voilà, je pense que de toute manière, ça ne les gêne pas. Ça. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que le démantèlement des sites olympiques, ça prend 2 mois. Je ne sais pas pourquoi c'est si long, mais...
Ça a été. Il a fallu 4 mois pour les mettre en place et 2 mois pour les enlever. Merci Thierry d'avoir été dans les GG, dans les grandes gueules. Parce que tu disais, ils sont fous. C'est ce que j'ai entendu.
Moi, je trouve qu'ils sont fous. Si vous voulez, je vous donne un exemple très concret. J'ai emmené ma grand-mère hier en Normandie pour un événement familial en voiture. J'ai bien dû aller la chercher. En voiture, avec une voiture. J'ai dû sortir de Paris avec cette voiture. Mais je ne sais pas comment vous dire. Il faut vraiment être quelqu'un avec beaucoup de self-control pour ne pas péter un câble, si vous voulez. Et pardon, une dame de 89 ans, vous ne la mettez pas dans le métro pour aller à la gare, prendre un train, etc. Il y a des cas dans lesquels il y a effectivement des gens qui ont besoin de pouvoir circuler dans Paris, ou alors on décrète, et je crains que ce soit aussi
les grands-mères peuvent emprunter les couloirs de bus.
Je crains que ce soit aussi un peu le souhait de Madame Hidalgo et de son orchestre, que les personnes âgées, les handicapés, les familles, c'est tous ces gens-là, ne peuvent plus vivre à Paris. Et Paris n'est plus qu'une ville pour trentenaires, décérébrés,
et touristes.
En vélo fixie. Et ben moi, je ne le souhaite pas.
Parade des athlètes demain, est-ce que c'est vraiment
ça peut Flora, être du second degré et de l'humour.
Non, mais Flora tu t'es pas senti visée. La trentenaire en vélo fixie.
Non, c'est fini.
C'est fini. Je me fais attaquer ?
Non, pas du tout. C'est parce que je te voyais le visage très fermé.
Elle était dans ses pensées.
J'ai pas dit un mot.
Est-ce que c'est vraiment.
Moi, j'ai juste la dalle à cette heure-ci. On l'a tous. Nous animer notre déjeuner et je vais aller m'acheter un sandwich.
Est-ce que c'est vraiment nécessaire ou pas, parade des athlètes demain ? Qu'est-ce que vous en dites ? On va regarder. Réponse définitive. C'était pas nécessaire à 64%.
RMC, les grandes gueules.
Passez un bon week-end et on se retrouve lundi entre 9h et midi avec vous bien sûr au 32-16 pour côté de discuter et de débattre. D'autant que, attention, c'est la semaine où on aura le gouvernement normalement. On sera lundi avec Zorabitan, cadre de la fonction publique, Jean-Loup Bonamy, le professeur de philosophie et l'avocat Charles Consigny.
RMC Les Grandes Gueules, tous les jours, 9h midi.
RMC.fr et appli RMC.
RMC en direct, partout, tout le temps.
RMC.
Ils sont sportifs.
Ils se voient le week-end.
Ils forment une grosse équipe.
Ils ne pratiquent pas la langue de bois.
Ils aiment le rugby,
le foot,
le judo,
l'escrime,
le cyclisme,
le handball,
la voile,
le karaté,
le skateboard,
la pétanque,
le ski,
le biathlon,
le triathlon,
le
décathlon.
Et surtout, le sport.
Ce sont les grandes gueules du sport, bien sûr.
Tous les samedis et dimanches, 9h midi sur RMC.
RMC Running. Dimanche 15 septembre, testez-vous sur le 50e semi-marathon Auray-Vannes. Relevez un défi personnel ou encouragez les coureurs sur le parcours breton du Golfe du Morbihan. Toutes les infos sur auray-vannes.com. Le 50e semi-marathon Auray-Vannes, dimanche 15 septembre, avec RMC.
Léon Bastien revient à 15 mètres maintenant. Il va passer devant. Il va le faire. Mais oui. Léon Bastien, champion olympique.
RMC intégrale Paris 2024.
Salut, c'est Pierre Dorian sur RMC. Les Jeux Olympiques de Paris vous en fait rêver et tout le monde veut prolonger la fête. Alors tout à l'heure, on en reprend une dose. RMC vous offre un intégral Paris 2024 en direct des Champs-Élysées pour suivre la grande parade des athlètes français et célébrer nos médaillés. De 14h à 16h30, un maximum d'invités au micro de RMC, des frères Lebrun à Antoine Dupont, ils vous feront revivre les émotions des Jeux Olympiques. Rendez-vous tout à l'heure, 14h, 16h30, sur RMC.
Pas le temps d'écouter la radio aujourd'hui ? Sur RMC.
Sur RMC, vous avez toute la nuit.
Rediff. RMC, les meilleurs moments d'Apolline Matin.
Grenoble une nouvelle fois à la une ce matin. On a appris hier soir que le suspect recherché depuis la mort de Lignan de Jean était connu pour des faits de violence, de vol et de trafic de stupéfiants. Cet homme de 25 ans est traqué avec l'aide du RAID. C'est dire la dangerosité du fugitif, mais pour autant, à l'heure qu'il est, 6h42, il n'a toujours pas été attrapé. 19 fusillades à Grenoble depuis le début de l'année, dont la moitié cet été, malgré des renforts de police, malgré des interpellations à répétition. J'aurai tout à l'heure le maire de Grenoble, Éric Piolle, face à moi. Ce sera à 8h30, mais d'ici là, c'est vos témoignages que j'aimerais pouvoir recueillir. Est-ce que là où vous habitez, vous voyez aussi des armes qui circulent, des tirs, des règlements de compte ? Vous êtes nombreux à témoigner aussi depuis ce matin avec Charles. Est-ce que, contrairement à la ville de Grenoble, la police municipale est armée chez vous ? C'est aussi une des questions, hein. Vous le savez, Éric Piolle refuse d'armer la police municipale à Grenoble. Est-ce que ça changerait quelque chose ? Venez en tout cas témoigner de votre quotidien. Et il y a déjà William qui est avec nous au 32-16. Bonjour William.
Oui, bonjour Apolline.
William, bienvenue. Vous nous appelez Deschirolles, donc vous êtes effectivement juste à côté de Grenoble. Grenoble, vous connaissez très bien. Oui. Vous êtes agent d'entretien, c'est ça ?
Tout à fait, sur la ville de Grenoble.
Qui travaille très tôt, donc vous êtes au boulot là déjà ?
Oui.
Au boulot, très tôt le matin. William, c'est quoi votre quotidien, justement, sur ces questions de sécurité ?
Bah en fait, des incivilités au quotidien, c'est-à-dire les agents d'entretien en général, hein, donc on commence plus tôt que la normale, c'est-à-dire à partir de 3h du matin, on navigue sur Grenoble et la banlieue. Et en fait, quand on se retrouve parfois pour boire un café ensemble, on peut constater qu'on a tous les mêmes soucis, c'est-à-dire qu'on subit des incivilités au quotidien, c'est-à-dire des gens qui nous abordent ou prétextant une demande des cigarettes ou de l'argent. Et en fait, souvent, on leur donne un refus parce qu'on n'a pas d'argent sur nous. Mmh. Quoi. Je veux dire, les agents d'entretien, on ne se balade pas avec de l'argent dans la voiture, si ce n'est 1 euro pour boire un café, des choses comme ça. Mais je veux dire, voilà. Et puis, quand il y a des refus, tout de suite, ça part tout de suite en pugilat, c'est-à-dire, c'est des agressions verbales, physiques. Donc, en fait, mais il n'y a pas que moi qui le subis. Hein. Mmh. C'est régulier, quoi. Je veux dire, c'est récurrent.
Et quand vous partez au boulot, vous partez donc à 3 heures du mat, vous redoutez, vous êtes quand même aux aguets. Vous avez.
Tout à fait, on est aux aguets, bien sûr. Surtout que Grenoble est transformé un petit peu en coupe-gorge. Il y a des rues entières et des quartiers entiers qui sont plongés dans le noir pour des économies d'électricité. Donc, on se balade avec nos frontales sur la tête. C'est vraiment...
Vous vous baladez avec la frontale, William ?
Oui, bien
sûr. La lumière frontale, parce qu'il n'y a plus de lumière dans les rues ?
Oui, bien sûr. Mais il n'y a pas qu'à Grenoble, hein, que ce soit Échirolles, Mélan, c'est...
Et vous avez l'impression que ça a empiré complètes. Ça a empiré l'insécurité.
Ah oui, ça a totalement empiré, bien sûr.
Et puis le sentiment pour vous de ne pas du tout être en paix et au calme. Vous avez peur de la rue dans laquelle vous vous engagez, quoi.
Bien sûr, tout à fait.
Vous tombez sur quel genre de personnes, William, à 3h du matin?
Toujours des personnes agressives, toujours le même type de personnes, il faut être honnête. Hein, voilà, c'est toujours le même profil, hein, des gens qui ne travaillent pas. Parce que nous, les seules personnes, si ces gens-là n'étaient pas là, on croiserait que des travailleurs. Mais eux, c'est pas des travailleurs, c'est des gens qui rôdent la nuit et en fait, qui viennent casser les pieds à différentes personnes.
Ouais, à ceux qui bossent. William, vous en avez parlé avec. Vous disiez quand on se prend un café le matin avec les collègues qui vivent la même chose depuis la mort de Lignan. Est-ce que vous avez échangé avec les autres travailleurs de la nuit, j'allais dire?
Tout à fait. Ben il y a un ras-le-bol général. Hein. Moi j'habitais Échirolles, donc en fait si vous voulez, là il y a encore 15 jours de ça.
Il y a eu une fusillade.
300 mètres de chez moi, il y a eu encore des fusillades. C'est récurrent. Il y a eu 4 blessés. En fait, ça devient du grand n'importe quoi. Puis il y a des répercussions. Moi, je suis propriétaire. En fait, si vous voulez, cette insécurité a conduit justement sur Échirolles à une baisse de l'immobilier de 30 à 40%. C'est-à-dire que nous avons investi, on a placé de l'argent en pensant que pour plus tard, quand on pourra revendre pour prendre une retraite paisible, entre guillemets, en fait, on a investi à perte. Aujourd'hui, en fait, sur quoi on a misé, ben ça s'est cassé la figure parce qu'en fait les gens n'investissent plus sur Grenoble et la banlieue. Même je fais des quartiers quand même assez chics du côté de Mélan, Coran et tout ça. Ben même là-bas, c'est pareil. On retrouve le même problème. Hein. C'est-à-dire que le problème, c'est téléporté.
Ouais, ça s'est élargi. William, quand même un mot sur. Vous avez 50 ans, c'est ça, William?
Tout à fait.
Vous avez vu les choses se dégrader. Est-ce que vous estimez que ça s'est empiré et vous diriez...
Ah oui, complètement, bien sûr. On va dire 8-10 dernières années, ça s'est complètement délabré, oui, empiré, oui, bien sûr.
Oui, donc en fait, quand vous avez acheté votre appartement, par exemple, vous imaginiez au contraire que ça allait aller de mieux en mieux.
Tout à fait. J'ai acheté mon appartement en 99, vous voyez, donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Bien sûr, c'était un investissement.
Oui, ça veut dire que vous
donne un exemple. Mon appartement est en vente depuis 7 ans, mais il est invendable.
Votre appartement, il est en vente depuis 7 ans?
Et
il n'y a même pas de visite.
Ben disons que si, on peut le vendre, mais moitié prix de ce qu'on a acheté. Donc à partir de là, autant pas vendre.
Oui, avec carrément de la perte.
Tout à fait.
Est-ce qu'il y a des moments où vous redoutez d'aller travailler carrément, William?
Oui, Marie, bien sûr, tout à fait. Mmh. Au quotidien, on a la boule au ventre, parce qu'on se dit qu'est-ce qui va arriver encore aujourd'hui.
Amélie,
William, je me posais une question. Est-ce que vous avez le sentiment qu'en tant qu'agent d'entretien, je ne sais pas si vous êtes identifiable dans la rue, mais vous prenez davantage de risques parce que peut-être vous représentez aux yeux de certains l'État, les institutions?
Ah non, on ne représente pas l'État.
Il travaille dans le privé.
Oui, je sais bien, mais...
Il travaille dans le privé. Ah, il n'est pas du tout agent municipal, pardon Amélie. Mais non, j'ai bien compris, hein, William, vous travaillez tout à fait dans le privé. Hein,
non, on intervient sur des copropriétés ou des bureaux, en fait.
Voilà, donc vous n'avez pas un uniforme ou une tenue particulière?
Non, absolument pas. Mais bon, voilà, les gens que vous croisez en général à 2, 3, 4 heures du matin, à ces heures-ci, de toute façon, on a tous des véhicules ou sérigraphés ou non, mais bon, tout le monde se connaît, on est reconnaissable, on sort et on rentre des poubelles, on lave des vitres, on rentre et on sort des allées.
Ils savent que vous travaillez, quoi.
Voilà. Si vous aviez le maire... De même dans les quartiers chics de Grenoble, c'est-à-dire qu'avant, on pouvait laisser la porte ouverte pour pouvoir rentrer et venir, parce que bah, là, on trimballe notre matériel.
Oui, votre matériel, bien sûr.
Les seaux et tout ça. Aujourd'hui, on est obligé de refermer directement derrière, parce qu'il y a des gens qui s'introduisent. C'est-à-dire que c'est des choses qui n'arrivaient pas avant. C'est-à-dire les gens rentrent, ils viennent nous casser les pieds, même sur nos lieux de travail. Ça devient du grand n'importe quoi. C'est comme si quelqu'un rentrait dans une usine et qui venait embêter les salariés. C'est du délire total.
Ils viennent sur votre lieu de travail et pendant que vous bossez. William, un grand merci pour votre témoignage. Il est précieux ce matin. William, c'est la première fois que je vous ai au téléphone.
Tout à fait.
Eh ben soyez le bienvenu. Merci beaucoup d'être venu partager.
Merci à vous de m'avoir pris au téléphone.
Eh ben vous êtes le bienvenu. Merci pour votre témoignage, William. Bon courage. Je porterai tout ce que vous nous disiez tout à l'heure auprès du maire de Grenoble tout à l'heure, puisque Éric Piolle sera mon invité à 8h30. Ce sera le face-à-face sur RMC et BFM TV. Comme William, vous poussez la porte du 32-16.
RMC, les meilleurs moments d'Apolline Matin.
Bonjour Frédéric Ploquin, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes grand reporter, vous êtes spécialiste du grand banditisme. Et je voudrais qu'on revienne sur ce qu'il s'est passé hier soir à Grenoble. L'homme qui a tiré et tué un agent municipal est toujours en fuite ce matin. Il est armé et dangereux. Il y a eu un accident entre deux voitures. Un agent municipal qui se trouvait là a voulu aller prêter secours face à cet accident. Et puis au moment où il arrivait proche des deux voitures, il a vu que celui qui avait provoqué l'accident était en train de tenter de fuir. Il a donc essayé de le retenir. L'homme a sorti son arme, a tiré à deux reprises et a donc tué cet agent municipal. Il est en fuite au moment où on se parle. Je voudrais que vous écoutiez les explications du maire de la ville, Éric Piolle. C'était sa réaction hier soir.
Ça n'a à la fois rien à voir avec les règlements de compte au sein du trafic, et à la fois ça a tout à voir parce que comment se fait-il qu'on soit armé dans la rue et que on soit suffisamment décérébré pour tirer à 7h du matin sur quelqu'un qui est venu vous porter secours.
À la fois rien à voir et tout à voir, et la question c'est les armes. Comment vous réagissez à ça, vous, Frédéric?
La première chose qu'il faut traiter, ce sont les faits. Donc on a un type à 7h30 du matin, un dimanche, qui se balade dans une voiture surpuissante immatriculée en Pologne, peut-être de location, je ne sais pas, qui a un accident et qui là sort un flingue et vient, symboliquement c'est extrêmement fort, vient tuer la personne qui lui porte secours. Que des gens se baladent parfois dans leur voiture avec des bombes lacrymogènes ou avec des tournevis pour se défendre, c'est une chose. Mais là, on est quand même, par rapport au profil de l'auteur qui est en fuite à cet instant, on a quand même quelqu'un qui se promène. Moi, je connais pas beaucoup de gens qui se promènent avec des flingues dans leur bagnole, si ce n'est des voyous. J'en connais beaucoup, des voyous qui se baladent, parce que un bandit, un gangster, lui, il craint d'être attaqué à tout moment, il craint... Donc il y a des hypothèses comme ça qui s'ouvrent à moi directement. Je me dis, tiens, si on sort un flingue pour tuer la personne qui vient vous porter secours, c'est que, premièrement, bon, il peut être suralcoolisé, coqué, 7h du matin, peut-être qu'il sort de boîte, je ne sais pas. Donc, délit de fuite, ça c'est la première hypothèse. La seconde, c'est qu'il transporte des choses dans sa voiture. Ça peut être une cargaison d'armes, pourquoi pas. Ça peut être de la cocaïne, ça peut être de la drogue, ça peut être en tout cas des produits interdits. C'est la deuxième raison pour laquelle il n'a pas envie d'être coincé. Mais c'est vrai que ça nous dit quelque chose. Bon, symboliquement, il y a d'autres choses qui m'interpellent. Moi, si vous voulez, c'est l'agent de propreté de la ville qui est tué. Le chef des agents de propreté. Par rapport à cette politique de la place nette et de la ville propre qu'on cherche à nous vendre, je trouve que là, finalement, cet individu, quel qu'il soit, tue l'homme qui prône une ville propre. Donc c'est un fait divers extrêmement, extrêmement sale de ce point de vue-là.
Extrêmement sale, extrêmement triste. Globalement, cela intervient dans une ville, Grenoble, où il y a eu 18 morts par fusillade depuis le début de l'année. Qu'est-ce qui se passe? 18 fusillades, qu'est-ce qui se passe?
Ce qu'il faut dire de Grenoble, c'est que c'est... Bon, évidemment, Grenoble n'est pas Marseille, c'est moins connu que Marseille. Mais moi qui étudie la question du grand banditisme depuis des années, je peux vous dire que Grenoble est un berceau du crime organisé en France. C'est là une situation géographique entre la côte, pas loin de la Côte d'Azur. Il faut voir, géographiquement, pas très loin entre Lyon et la Côte d'Azur, d'une part. Et d'autre part, une très très ancienne implantation de la mafia italienne à Grenoble. Donc il y a, on va dire, on s'entretue, les gangsters s'entretuent à Grenoble. Depuis que j'observe la ville de Grenoble, ça fait 40 ans qu'on s'entretue à Grenoble. Les jeunes caïds de cité qui ont grandi récemment s'entretuent de la même manière que les anciens voyous. Pourquoi ? D'abord, il y a cette culture de la mort. C'est comme à Marseille, hein, que les gangsters se donnent la mort. C'est pas la même chose à Lyon, il y a une autre culture à Lyon. Donc là, on s'entretue, ça c'est clair. D'autre part, il faut dire que
le gâteau pour ce nouveau banditisme à Grenoble est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on a un marché, c'est pas Blois ou Châteauroux. Blois ou Châteauroux, ça nous surprendrait, moi ça me surprendrait davantage. Le marché de la drogue est extrêmement important dans une ville comme Grenoble parce qu'il y a une clientèle captive très forte, il y a une jeunesse importante, il y a une population universitaire. L'hiver, il y a toutes les stations de sport d'hiver qui se remplissent de touristes assoiffés de divers produits pour faire la fête la nuit, etc. Donc il y a un marché captif, donc il y a beaucoup d'argent. Et donc, si vous voulez, le fait... cet été, le procureur de Grenoble, pendant les Jeux Olympiques, il y avait la trêve olympique, mais je peux vous assurer que les voyous ne respectent pas ce genre de trêve.
Non, la trêve olympique, c'est... Oui.
Récemment, donc, au mois d'août, le procureur de la République de Grenoble a pris la parole. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'il a dit « Le trafic, on a énormément de mal à le contenir, mais moi, ce qui me fait peur et ce que je voudrais empêcher, c'est qu'il y ait... mort d'hommes en dehors du cercle des voyous. » Il a dit ça. C'était assez prémonitoire parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je ne dis pas que ces balles de ce dimanche sont directement liées au trafic de stupéfiants. Mais il y a effectivement un contexte. Il y a une gangstérisation globale de la société. Et il faut quand même rappeler que il y a pas si longtemps que ça, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait éprouvé le besoin de rappeler publiquement, de manière publique, elle avait fait sur Twitter notamment, à l'ordre, le maire de Grenoble.
C'est une guerre, ou en tout cas une opposition très importante en termes même d'approche ou de philosophie de la sécurité. Absolument. Éric Piolle est devenu le punching ball, ou en tout cas l'opposant numéro un. Je reçois tout à l'heure Christian Estrosi, le maire de Nice, qui est pour le coup de ce point de vue-là plus proche de Gérald Darmanin, et qui fait d'Éric Piolle son ennemi numéro un dans l'approche de la sécurité.
Alors, il a réussi une chose formidable, Éric Piolle, c'est que quand vous regardez les sondages, Grenoble est considéré comme, au niveau de l'art de vivre, du cadre de vie, comme l'une des premières des villes numéro en France, faut quand même le rappeler. Donc, il a pas réussi sur tous les plans. Et c'est vrai que si vous avez le plus beau cadre de vie de la Terre, mais qu'à côté de ça, la sécurité, l'insécurité dérape de cette façon-là, c'est un bémol.
Vous avez parlé tout à l'heure de la question des balles perdues. Il y a eu cette phrase complexe et qui a été découpée par ses opposants, puisque effectivement, Éric Piolle dit. Personne n'est à l'abri d'une balle perdue, mais il ajoute, cela n'a en l'occurrence rien à voir, puisqu'il s'agit hier soir d'un accident de la route et de quelqu'un qui tire volontairement sur un agent. Mais cette phrase, personne n'est à l'abri d'une balle perdue, a été reprise telle quelle par Christian Estrosi, qui a immédiatement dit, l'approche d'Éric Piolle. Mais au fond, au-delà de la politique, est-ce qu'aujourd'hui... C'est pas un peu vrai. Personne n'est à l'abri d'une balle perdue désormais.
C'est vrai que si on regarde ce qui s'est passé depuis ces derniers mois, en marge du trafic de stupéfiants, les balles perdues ont été nombreuses. Il y a eu des morts à Marseille qui n'avaient
pas. Y compris dans leur propre appartement, on se souvient bien sûr de l'action de Payet, de Sokaina.
À Nîmes, comme vous le dites, à Dijon, à Marseille. Donc effectivement, aujourd'hui, on a affaire à des jeunes délinquants, à des trafiquants de stupéfiants complètement brouillons, complètement. Éric Piolle dit décérébré à propos de ce chauffard, mais quelque part qui n'ont plus aucune considération pour les individus qui les entourent et qui sont complètement concentrés sur leurs ennemis, leur guerre, etc., qui sont dans un espèce de tunnel et qui tirent avec des armes de guerre en pleine ville. Et évidemment, ces armes de guerre, ils ne les contrôlent pas forcément très 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 bien. Donc ces balles perdues, Éric Piolle a raison, Christian Estrosi aussi, c'est le sujet. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, le procureur de Grenoble lui-même a anticipé ça. Et a dit aujourd'hui le problème c'est plus le trafic lui-même puisqu'on n'y arrive pas, mais c'est d'essayer d'éviter que ça déborde dans tous les sens. Là, bon, l'histoire nous dira si ça a un rapport avec le trafic de stupéfiants.
Merci beaucoup Frédéric Ploquin, grand reporter, spécialiste du grand banditisme. Votre ouvrage à paraître, ça s'appelle Les Confessions d'un patriote corse. Ça sort le 30 octobre prochain, vous reviendrez nous en parler.
Ça c'est un scoop, c'est la première fois qu'on en parle.
Et on a déjà hâte de le lire. Merci Frédéric Ploquin, je le disais d'ailleurs tout à l'heure, Christian Estrosi sera mon invité à 8h30 sur RMC et BFM TV. Et puis si vous êtes habitant de Grenoble, n'hésitez pas à venir témoigner évidemment au 32.
RMC, Apolline Matin.
Du lundi au vendredi, 6h-9h. 6h39h. RMC partout. RMC tout le temps.
En podcast sur rmc.fr et sur l'appli RMC.
Bonjour, c'est Anaïs Castagna.
RMC, Anaïs Matin.
Désormais le week-end, on se retrouve dès 6h sur RMC pour votre nouveau rendez-vous Anaïs Matin. Les toutes dernières infos, des invités qui font l'actu et bien sûr plein de nouveaux rendez-vous que vous allez adorer, j'en suis persuadée. Avec toute ma bande, Peggy Broche et vous, au 32-16, on vous promet de la bonne humeur pour accompagner votre café. C'est le week-end, on prend le temps, on décompresse. J'ai hâte de vous retrouver.
RMC, 6h-9h, Anaïs Matin.
Oui, Anaïs Matin, c'est désormais de 6h à 9h, tous les samedis et dimanches sur RMC. Alors à tout à l'heure.
Le 29 septembre à Saint-Cloud ou connecté depuis le lieu de votre choix, rendez-vous à la course Enfants sans cancer avec RMC. Un événement festif et solidaire à ne pas manquer pour soutenir la recherche. Inscrivez-vous vite sur enfantssanscancer.com. La course Enfants sans cancer, le 29 septembre à Saint-Cloud ou en connecté avec RMC.
RMC au 32-16,
45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16,
75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
Jusqu'à dimanche, sur le circuit Paul Ricard, c'est le Bol d'Or avec RMC. Le mythe de l'endurance moto est de retour pour une 87e édition. Village moto, show mécanique, exposition moto et un concert du groupe All in Joyce. Info Ireza sur boldor.com. Le Bol d'Or moto, jusqu'à dimanche, sur le circuit Paul Ricard avec RMC.
La semaine prochaine, jouez sur RMC, remportez vos AirPods
et peut-être
l'iPhone 16.
Pour le gagner, va falloir le déverrouiller.
RMC a 5 chiffres du code de verrouillage. À vous de trouver le sixième.
Alors, écoutez bien RMC et tentez votre chance.
Dès que vous entendez, envoyez code par SMS au 732-16.
Code au 732-16.
RMC, première radio à vous offrir le nouvel iPhone 16.
Trop pressé aujourd'hui ?
Sur RMC, vous avez toute la nuit.
Rediff.
RMC, les meilleurs moments d'Apolline Matin.
Bonjour Arnaud Rousseau.
Bonjour Apolline Demeyer.
Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes le président de la FNSEA, le premier syndicat agricole. Dans ce moment de gouvernement introuvable, vous nous direz ce que vous demandez éventuellement, ou en tout cas ce sur quoi vous alertez le Premier ministre. Mais il y a un an, quasiment jour pour jour, c'était les prémices de la crise agricole, une colère qui a fini par paralyser tout le pays. Et ce matin, Arnaud Rousseau, est-ce que vous pouvez nous dire dans quel état d'esprit sont les agriculteurs ?
Eh bien écoutez, ils sont avec le constat que depuis un an, et vous savez, les panneaux retournés dans nos villages, on marche sur la tête, le changement de logiciel qu'on avait demandé n'est pas au rendez-vous. D'abord parce que un certain nombre de promesses qui ont été faites depuis le mois de janvier, les manifestations, la volonté de porter cette souveraineté alimentaire européenne, on n'a pas eu les réponses attendues. Par ailleurs, l'été a été extrêmement difficile sur le plan des productions, plus faible récolte de blé depuis 40 ans, les vendanges qui ont lieu en ce moment sont mauvaises, près de 20% en diminution. Le secteur de l'élevage fait face à des crises sanitaires sans précédent, que ce soit la fièvre catarrhale ovine, que ce soit la maladie hémorragique épizootique, le retour de la grippe aviaire. Et vous ajoutez à cela une forme d'inconnu quant à la situation politique confuse qu'on connaît maintenant depuis quelques mois en France. Ce cocktail, il est explosif, Apolline Demeyer, parce que les agriculteurs ont l'impression qu'on n'a pas entendu ce qu'ils avaient à dire et que leur colère n'a pas eu de réponse.
Quand vous dites cocktail explosif, ce qu'il faut comprendre, c'est que même cause, même effet, cette colère pourrait à nouveau se traduire par un mouvement d'agriculteurs qui paralysent le pays, qui traversent la France sur leur tracteur et viennent bloquer Paris ?
Oui, vous savez, les mêmes causes produisent les mêmes effets, avec un effet démultiplicateur, c'est le sentiment d'avoir été floué. Nous l'avions dit, ce qu'on voulait, c'était des réponses concrètes. Et que la parole donnée se transforme en acte concret. Le sentiment, c'est qu'on nous a fait beaucoup de promesses et que depuis le 9 juin et la dissolution de l'Assemblée nationale, finalement, une grande partie de ces promesses ne sont pas tenues. Je vous donne quelques exemples.
Allez-y.
On nous avait dit à l'été, vous n'aurez plus qu'un contrôle administratif unique. Vous savez, en agriculture, c'est 35 à 40 contrôles administratifs différents.
On se souvient des fiches, de tous ces formulaires que vous êtes obligé de remplir, des 32 justifications pour tailler une haie. Ça s'est quand même amélioré ?
Bon, il y a quelques mesures qui ont été mises en place, notamment une concernant le gasoil non routier avec la possibilité d'obtenir directement quand vous achetez un litre la remise et puis d'éviter d'avoir des papiers. Donc il y a quelques sujets qui ont avancé, notamment aussi quelques décrets. Mais vous savez, le fondement, la loi, cette loi d'orientation agricole dont on nous parle depuis maintenant près de 2 ans, qui a été suspendue après une première lecture à l'Assemblée nationale, nous l'attendons toujours. Nous avions dit qu'elle n'était pas complète, notamment sur les mesures fiscales. On attend que le projet de loi de finances, dont on voit bien qu'il prend du retard, et ça nous inquiète aussi, va être un gros sujet. Pour nous, ce qu'il faut, c'est des réponses concrètes. Et quand vous n'avez pas de réponse sur le plan structurel, ou pas suffisamment de réponses, quand vous n'avez pas, sur le plan conjoncturel, de vision, et je vous ai expliqué ce qu'était la situation de l'été, et qu'en plus, vous n'avez pas de ministre depuis près de 2 mois, ou un ministre démissionnaire qui expédie les affaires courantes, évidemment, c'est source de grande inquiétude.
Sur cette question en particulier, qui est une de celles qui rendait le quotidien des agriculteurs impossible, la part d'administratif, la part de justification, la part de normes, est-ce que malgré tout, les promesses ont été suivies de faits? Est-ce qu'il y a des transformations concrètes?
Non, Apolline de Malherbe, les transformations ne sont pas concrètes. Les agriculteurs n'ont pas le sentiment, mais vous les interrogez tous les jours avec vos reportages, n'ont pas le sentiment que les choses ont changé. Là aussi, quelques exemples. Sur le paiement des aides dues aux agriculteurs, le Premier ministre s'était engagé à ce que le 15 mars, tout soit payé. Eh bien, vous voyez, j'ai fait le point hier dans le département de Vendée. Au moment où je vous parle, il y a encore 150 dossiers qui ne sont pas payés. Ça veut dire 150 agriculteurs qui n'ont pas eu tout ou partie des promesses qui leur avaient été faites. 15 mars, on est le 15 septembre. Vous voyez, là encore une fois, on n'a pas le sentiment que ça avance. La machine administrative n'a pas été rénovée et le rendez-vous qui avait été pris n'est pas là. Et donc les agriculteurs continuent à avoir le sentiment que finalement, ce qu'ils avaient fait dans la dignité, je voudrais le rappeler quand même, avec une forme de maîtrise, la mise au travail et les engagements pris se traduisent par des non-réponses. Vous savez, quand vous êtes quelqu'un de responsable, que vous posez les problèmes et qu'on vous fait des engagements et qu'à la fin, vous avez le sentiment d'être floué, ça crée beaucoup de frustration et de la colère.
Vous dites, on l'entend, que finalement la colère est la même, mais qu'elle est doublée d'un sentiment d'avoir été pris pour des jambons.
Oui, c'est exactement ça. Il y a le sentiment, clairement, d'avoir été floué, pris pour des jambons, si vous voulez. Même certains sont plus imagés. Voilà.
Ça finit pareil, hein.
Ça finit avec beaucoup de frustration et le sentiment que finalement dans ce pays, si on n'utilise pas la violence et une forme de démagogie, on n'est pas entendu. Nous, on a toujours été un syndicat responsable. On l'est tellement que, voyant cette espèce de chienlit dans laquelle nous sommes enfoncés, on a produit à la rentrée un texte de loi en disant finalement ça n'avance pas.
Il est prêt, il est à la disposition
des parlementaires. Écoutez, les parlementaires font leur travail, c'est eux qui votent la loi, donc c'est jamais clé en main. Mais c'est pour montrer que le corps intermédiaire que nous sommes est responsable et que dans ce moment de grand trouble et de forte colère, comme je vous l'ai indiqué, nous, on est une force de proposition et on a dit tout ce qu'on voulait, à la fois sur ce qui avait été fait et à la fois sur ce qu'on veut.
Alors Arnaud Rousseau, il y a effectivement un gouvernement introuvable en quelque sorte, mais à la tête de ce futur gouvernement, il y a Michel Barnier qui lui-même a été ministre de l'Agriculture. Est-ce que pour vous, ce n'est pas au minimum un bon signal ?
Alors, Michel Barnier a deux qualités, c'est qu'il a été ministre de l'Agriculture entre 2007 et 2009 et qu'il connaît bien les arcanes européennes qui sont un sujet central pour l'agriculture. Et donc, de ce point de vue-là, son CV plaide pour lui. Mais comme je l'ai indiqué déjà, ce qui compte, ça n'est pas ce que Michel Barnier a fait dans le passé. Ce qui compte, c'est ce que Michel Barnier, Premier ministre de la France, va faire dans le mois qui vient.
Est-ce qu'il vous a appelé ?
J'ai eu un rapide échange par message avec lui pour lui dire, un, que je souhaitais le voir urgemment, ce à quoi il m'a répondu qu'il mettait son gouvernement en place et qu'évidemment il nous recevrait. Mais je le redis, le sujet, c'est que dans le mois qui vient, face à quelque chose qui est connu et que Michel Barnier connaît, nous ayons encore une fois les réponses.
Ce qui compte,
c'est le caractère concret.
Il y a quoi dans le projet de loi que vous proposez ? On rappelle effectivement que la dissolution avait mis fin à la loi agricole que vous espériez, qui a donc été évidemment remisée. Dans ce que vous demandez, quelles sont les mesures concrètes que vous demandez immédiatement au gouvernement ?
Il y a les mesures autour du sens du métier et de la dignité. Les retraites agricoles, dont on parle depuis des lustres et qu'on ne voit toujours pas aboutir. L'agriculture, reconnue comme un d'intérêt général majeur. Il y a des mesures autour du revenu et de la compétitivité. Qu'est-ce qui fait, par exemple, qu'on peut, les années difficiles, comme on est cette année, pouvoir réintégrer une partie de l'argent qu'on aurait mis de côté pour pouvoir lisser les à-coups de production, parce que nous, nos fermes, sont des entreprises à ciel ouvert qui dépendent de la météo, et on sait ce qu'il en est en ce moment. On veut aussi des mesures sur la simplification administrative. Quand vous déposez une autorisation pour agrandir, par exemple, votre élevage de volailles, aujourd'hui, c'est minimum 2 ans. C'est moins d'un an en Allemagne. C'est encore plus court en Belgique. Est-ce qu'à un moment, on peut faciliter la vie des entrepreneurs? Vous savez, nous, ce qu'on veut, et je crois qu'on est fiers de ça, c'est continuer à nourrir les Français avec une alimentation de qualité. Or, pour le faire, aujourd'hui, on a besoin de faciliter. Nous, ce qu'on porte, c'est le goût d'entreprendre en agriculture.
Vous avez mentionné cette pire récolte depuis 40 ans pour ce qui est du blé, des vendanges qui sont aussi extrêmement décevantes pour les vignerons. Est-ce que là-dessus, les agriculteurs vont être accompagnés?
Bah écoutez, c'est trop tôt pour le dire. On avait demandé au ministre notamment qu'il puisse y avoir un certain nombre de choses faites à Bruxelles, hein, sur des fonds de crise. Je n'oublie pas la fièvre catarrhale ovine. Vous savez, aujourd'hui, pour un éleveur, chaque matin, rentrer dans sa bergerie et voir des animaux étalés, c'est une catastrophe. Et c'est pas maîtrisé. Soit parce qu'on n'a pas suffisamment de vaccins.
Bah,
vous savez, quand vous avez une épisodie de cette nature, il nous faut des vaccins. Il nous faut des vaccins pour traiter le troupeau, que ce soit la fièvre catarrhale ovine de sérotype 3 au nord de la France, de sérotype 8 avec un variant, la maladie épizootique hémorragique qui touche les bovins, le retour de la grippe aviaire. Pour ces sujets-là, il nous faut rapidement des vaccins. Vous savez, on a déjà perdu, au moment où je vous parle, Apolline de Malherbe, 10% du troupeau ovin, c'est-à-dire des brebis français. C'est énorme. Et quand vous n'avez pas les brebis, vous n'avez pas les agneaux.
Mais qu'est-ce qui bloque ?
Mais ce qui bloque aujourd'hui, c'est l'anticipation, c'est la capacité rapidement à collecter des vaccins. Je me réjouis que le ministre démissionnaire, Monsieur Fesneau, ait dit que l'État allait commander massivement des vaccins. Il faut aller plus vite. Et puis surtout, il faudra indemniser rapidement. Parce qu'encore une fois, quand vous avez perdu vos animaux, comment vous construisez le nouveau cycle d'exploitation? Quand vous avez fait une récolte de blé de moins 40% ou que vos vendanges font moins 20%, il faut construire le cycle d'exploitation. Donc là, on a besoin de réponses rapides. Ça, c'est le côté très conjoncturel. Mais sur le structurel, je le redis, on a aussi besoin d'une vision. Cette vision, c'est comment on défend notre souveraineté alimentaire française, comment on continue à produire en France et comment on évite de continuer à importer une alimentation qui ne recouvre pas
les standards. Est-ce qu'il y aura des conséquences sur les prix pour les consommateurs? On parle évidemment là des ovins et on parle du blé et on parle du vin. Est-ce que tout cela aura des conséquences sur aussi les prix?
Non, pas à ce stade, et tant mieux pour le pouvoir d'achat des Français. En blé, même si on est récolte de moins 40%, vous savez, on en exporte près de la moitié, donc que vos auditeurs ne s'inquiètent pas, si leur boulanger augmente le prix de la baguette, ce ne sera pas à cause du prix du blé, qui par ailleurs, lui, baisse. Idem
sur les marchés mondiaux, hein, parce qu'effectivement, on se souvient d'en avoir beaucoup parlé avec vous au moment précisément du moment aigu de la crise agricole. Le prix du blé, le cours du prix du blé, il est décidé au niveau effectivement mondial. Hein.
Absolument. Ce sera pareil aujourd'hui. Le prix de l'agneau ne va pas augmenter. Il est à un prix rémunérateur pour peu que vous ayez des animaux à vendre. Voilà. Donc le sujet du pouvoir d'achat, puisqu'on en parle pour nous, c'est de continuer à construire ce fameux prix en marche avant, respecter la matière première agricole. C'est tout le sens des négociations que nous avons avec les industriels et avec la distribution pour faire en sorte que... On veut,
c'est
on
quoi le prix en marche avant? C'est-à-dire qu'on avait, il y avait l'expression prix plancher qui finalement n'a pas vraiment été retenu. Vous aviez peur que ça devienne un prix plafond. On en est où?
Alors, nous, ce qu'on veut, c'est ni des prix planchers, ni des prix administrés, parce que, comme vous l'indiquez, le prix plancher devient le prix plafond, mais on ne peut pas non plus avoir une économie dérégulée. On a besoin de construire en marche avant, à partir des indicateurs de coûts de production interprofessionnels, notamment dans les productions d'élevage, celles qui ont bénéficié des lois Egalim, vous vous souvenez, que le coût de la matière première agricole soit respecté. Parce qu'un agriculteur qui vend son kilo de viande, de bœuf, ou son litre de lait en dessous de son coût de revient, mais il y a un moment, il tient pas. Et ensuite, que les industriels fassent leurs négociations avec la grande distribution, de sorte que on puisse continuer à fournir une alimentation abordable pour les Français, sans finalement appuyer sur la tête du maillon de la production.
Et vous parlez à l'instant de cette question des trois maillons. Quand on va faire ses courses pour acheter de quoi manger, il y a eu en réalité trois intermédiaires en quelque sorte, ou disons un producteur, deux intermédiaires. Il y a le producteur, c'est-à-dire vous les agriculteurs, il y a le transformateur, celui qu'on appelle l'industriel, et il y a le distributeur, la plupart du temps, la grande surface. Les fameuses négociations commerciales, on se souvient, en réalité, elles ne sont qu'entre les deux derniers, c'est-à-dire l'industriel et la distribution. Vous demandez aussi à pouvoir vous asseoir à la table des négociations, au moins pour certaines d'entre elles. Est-ce que là-dessus vous êtes entendu ?
Eh bien écoutez, c'est effectivement ce qu'on veut. Alors je précise bien pour les productions qui sont aujourd'hui sous le cadre de la loi Egalim, parce qu'il y a un certain nombre de produits, vous parlions du blé par exemple, ou du colza, qui sont des marchés mondiaux, qui sont des marchés différents, mais en tous les cas, protéger la matière première agricole dans la construction, c'est important. Et oui, je vous le confirme, Apolline de Malherbe, on veut être à la table des négociations. Nous
mais
avons
est-ce
des
qu'on vous
organisations.
Entend là-dessus, j'ai l'impression que ça fait un an que vous en parlez.
Ben, écoutez, là, on s'est mis autour de la table. Souvenez-vous, il y a un an, on voulait avancer les négociations entre.
Vous l'avez obtenu d'ailleurs.
Et enfin, nous, on l'avait pas demandé. C'était industriel distributeur d'avancer de 15 jours. Bon, le mais sujet
pour
nous,
c'est pas ça qui a bouleversé
absolument.
Le monde. Hein.
Le sujet pour nous, c'est que la date qui est une date de clôture des négociations entre industriels et distributeurs fin février, mais que avant que cette négociation s'ouvre, et elle continuera à le faire, il puisse y avoir entre les organisations de producteurs, dans les productions sous Egalim, essentiellement dans l'élevage, une négociation entre l'organisation de producteurs et l'industriel. Et puis j'ajoute que ça c'est la grande distribution, mais on a besoin de le faire aussi pour les marques de distributeurs, et on a besoin de le faire pour tout ce qui est en dehors de la grande distribution, qui représente à peu près 45% des volumes alimentaires, tout ce qui est chez les grossistes. Qu'est-ce qu'on veut derrière ça ? On veut garantir qu'on pourra continuer à produire en France. Et on pense qu'on est capable de le faire de manière intelligente avec tous les maillons, de sorte que les consommateurs, parce que c'est eux qui restent les décideurs, puissent avoir accès à une alimentation française de qualité à des prix qui sont supportables pour leur portefeuille.
Vous parlez à l'instant de la question des producteurs et aussi des marques, des distributeurs. Ce matin, l'association L214, et on l'a révélé sur RMC, a ouvert une enquête, a révélé ce qui a ensuite entraîné l'ouverture d'une enquête par le parquet de Saint-Brieuc pour maltraitance animale visant un élevage porcin dans les Côtes d'Armor. L214 explique d'ailleurs que cet abattage fournit le jambon Leclerc qui a immédiatement mis fin à sa collaboration hier, donc avec cet abattoir. Est-ce que ça veut dire que quand on commence à mettre vraiment le nez dedans, comme le fait L214, il y a encore un certain nombre d'élevages, là en l'occurrence c'est un élevage porcin, qui ne respecte pas les règles contre la maltraitance animale ?
Bon, d'abord, on connaît bien cette association qui emploie des moyens qui sont évidemment illégaux. Par ailleurs, je ne connais pas cette affaire précise puisque vous l'avez révélée il y a quelques minutes. Donc on va regarder. Il est arrivé qu'il puisse y avoir des images qui puissent être choquantes pour ceux qui les regardent, mais qui ne correspondent ni plus ni moins qu'à ce qu'est la réalité d'un élevage qui parfois.
Non, en l'occurrence, je les ai regardées les images ce matin.
Je ne les ai pas vues.
Je ne vais pas vous faire ce procès.
Ce que je veux vous dire,
ce sont des truies qui sont enchaînées et encagées, plus précisément, et dont les petits, finalement, n'arrivent même pas à se dégager de leur poids et meurent sous elles.
De Malherbe, on ne cautionne pas la maltraitance animale. La quasi-totalité des éleveurs sont des gens qui sont extrêmement respectueux de leurs animaux. Il peut y avoir quelques exceptions. Encore une fois, je ne commande pas ce cas que je ne connais pas. Et si il peut y avoir des abus, nous les dénonçons. Donc, c'est très clair, il n'y a pas de malentendu sur le sujet. Mais je voudrais rappeler ici que la volonté d'L214, c'est plus d'élevage en France. Et nous, on continue à affirmer que d'avoir un élevage, encore une fois, parmi les plus respectueux de ce qui se fait sur l'ensemble de la planète, ça a du sens pour le consommateur français. Voilà.
Le consommateur français lui-même le demande, au fond.
Bien entendu, mais je l'invite, le consommateur, à regarder comment les animaux sont produits dans des feedlots au Brésil ou en Argentine, et il verra que le bien-être animal, qui est un sujet central, est respecté en France. Et je le redis, l'immense, pour pas dire la quasi-totalité des éleveurs sont extrêmement précautionneux de leurs animaux et sont les premiers malheureux quand il y a des sujets de cette nature. Maintenant, s'il y a quelques cas de dérive, il faut les traiter, mais je ne connais pas ce cas, donc je ne porte pas de jugement péremptoire.
On avait beaucoup parlé, Arnaud Rousseau, au moment de la crise agricole, de la question d'une forme de concurrence jugée déloyale avec le poulet ukrainien. Pour effectivement soutenir la population ukrainienne, les droits de douane avaient été considérablement baissés pour pouvoir permettre à l'agriculture ukrainienne d'avoir des débouchés, notamment en Europe, jusqu'à finalement constater que quasiment la moitié de la consommation de poulet, notamment le poulet transformé, consommé en France, provenait d'Ukraine et, vous le dites, de fermes qui ne respectent pas les mêmes normes, justement, en termes notamment de gigantisme des élevages. On en est où ?
On en est au même point, Pauline de Manerbe. D'abord, les Ukrainiens, malheureusement, sont toujours un pays en guerre. Et de ce point de vue-là, notre soutien ne se dément pas. Pour autant, les conditions de production et le fait qu'on fasse finalement payer cette guerre en Ukraine aux agriculteurs européens n'est toujours pas tenable. Un certain nombre de mesures avaient été prises à Bruxelles avec la possibilité d'activer des freins d'urgence. Ils ne le sont pas, par exemple, en blé. Et ce qui se passe en ce moment en blé avec les chutes de prix vertigineuses est un vrai problème. Donc ce problème doit continuer à être regardé. Il a été un peu oublié parce qu'à Bruxelles, on a aussi un changement de commission. Donc les commissaires européens et notamment le commissaire européen...
En fait, on a l'impression qu'à chaque changement politique, alors évidemment sur la scène française, c'est particulièrement prégnant, mais enfin c'est effectivement le cas aussi au niveau européen, tout ce qui était dans les tiroirs, c'est comme si on repartait à zéro, quoi.
Ben oui, c'est d'ailleurs notre grand drame, c'est qu'on a besoin, je le disais à l'instant, d'un commissaire européen à l'agriculture qui s'empare de ce sujet. Encore une fois, non pas
pour... Ils seront nommés la semaine prochaine, hein, donc on a l'impression qu'effectivement les deux calendriers sont concomitants en France comme
oui,
là-bas.
Oui, avec, vous l'avez dit, une période de latence et qui n'est pas favorable à l'expression concrète de la vision européenne de la souveraineté. Le sujet pour nous, encore une fois, n'est pas d'écarter les Ukrainiens qui ont de véritables problèmes, c'est d'avoir du commerce qui est loyal et surtout de faire en sorte que s'il y a des aides apportées aux Ukrainiens, elles soient faites dans un cadre communautaire et que ça ne soit pas simplement les paysans européens qui soient la variable d'ajustement.
Arnaud Rousseau, vous nous avez dit effectivement que la colère, la frustration et le sentiment aussi de s'être fait avoir en quelque sorte nourrissait une colère qui gronde. Est-ce que c'est une prévision? Est-ce que vous alertez? Ou est-ce qu'il y a un peu de la menace?
Non, vous savez, c'est pas notre mode opératoire. Je crois que vous l'avez vu au mois de janvier. On nous a longtemps dit, vous êtes en train de vous faire déborder, vous ne maîtrisez rien. Je crois qu'on a montré qu'on était des gens responsables. Je rappelle que pas une seule personne des forces de l'ordre n'a été blessée, qu'il n'y a pas eu d'atteinte aux biens et aux personnes, qu'on s'est mis au travail, qu'on a discuté et qu'on a fait en sorte que les choses puissent se passer. Mais je le dis très clairement, il n'y a pas de menace, il y a un constat. Vous savez, nous, on est des gens qui observons ce qui se passe. Et ce qu'on observe, c'est que quand vous faites une promesse à quelqu'un,